7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. L'école à la radio, des enseignants d'école primaire vous proposent chaque jour des activités pour vos enfants qui n'ont pas repris la classe ou sont en vacances avec derrière eux une si longue interruption. Alors toute cette semaine, Sarah Vauquier nous accompagne. Bonjour maîtresse Sarah, comme certains vous appellent.
Bonjour les voisines, bonjour les voisins.
Vous êtes une enseignante suisse-allemande. Vous avez donc grandi dans des écoles très différentes du système francophone.
Ah, oui.
Ah, je ne sais pas ce que veut dire ce « ah oui », mais votre différence en tout cas nous intéresse. Vous avez publié « L'école à ciel ouvert » aux éditions La Salamandre. Alors hier avec vous, les enfants se sont familiarisés avec les fractions. Et aujourd'hui, quel est le programme, Sarah ?
Aujourd'hui, on a travaillé les langues, les arts, et puis un peu l'historique de l'écriture. On va fabriquer un instrument pour écrire, et puis tester différentes écritures avec cet instrument.
Avec quel objectif, finalement ?
Ben, plein d'objectifs. Ben, on a déjà écrire, expérimenter, produire, créer. Se repérer aussi dans les domaines liés aux arts plastiques, quand vous pouvez après écrire, dessiner, faire des symboles avec votre instrument d'écriture. Et se repérer dans le temps pour la petite partie histoire de l'écriture.
Et puis avec vous, Sarah, surtout, on va bien comprendre à quoi sert l'écriture, hein, pour ceux qui peinent un peu quand ils apprennent. Et c'est vrai que ça demande des efforts, hein, les premières années. Vous allez comprendre à quel point c'est indispensable pour la marche du monde. Pour ces exercices, en tout cas, vous avez besoin d'une feuille, d'un crayon, d'une gomme ou l'ardoise et la craie. Et pour fabriquer un instrument d'écriture, que faut-il, Sarah ?
Ben, il vous faudra déjà un support pour pouvoir couper dessus, ben, soit carton, une planche en bois, une pierre. Il vous faudra un couteau. Et puis, ben, soit une plume d'oiseau, soit un petit bâtonnet, soit un roseau si ça pousse proche de chez vous.
Voilà, une plume, peut-être à aller chercher dans une cour où il y a des poules pas très loin. Je ne sais pas d'ailleurs si les plumes de poules, ça marche ou pas.
Ah ben oui, moi je prends des plumes de poules.
Ah
c'est
bon,
ce qui,
d'accord.
Après, comment ici, hein.
Un bâtonnet ou un roseau et un support donc pour couper dessus le carton, la planche, la pierre, que des choses que vous pouvez trouver autour de vous. Et bien sûr, les voisins et les voisines, on attend vos réactions, vos questions, toujours postées sur WhatsApp au 33 1 84 22 71 71, mais également sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, beaucoup de choses à retrouver aussi. N'oubliez pas de nous suivre sur Insta où vous voyez les réalisations des enfants. L'émission est réalisée chaque jour avec l'équipe Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Nicolas Benita et moi-même pour vous servir.
7 milliards de voisins.
On est tout proches.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
7 milliards de voisins. Et la planète se parle.
Bonjour Emmanuel, bonjour professeur Sarah. J'ai vraiment adoré le cours sur les syllabes. J'avais raté l'émission, mais je l'ai réécouté en podcast. Et j'ai trouvé un mot qui a plus de 6 syllabes. C'est anticonstitutionnellement. Et aussi, j'ai trouvé une chanson. Bon, je ne sais pas si ça va vous plaire, mais c'est... Ils prennent un X au pluriel, lesquels ? Ils prennent un X au pluriel, lesquels ? Bisous, cailloux, sous nous, ibouzouzoubou.
Bonjour, Eric, je m'appelle Yann, j'ai 12 ans, en classe de Sandré à l'école Saint-François de Bambé. J'ai bien écouté l'émission de Sarah Vauquier sur la fraction. Une fraction est un nombre représenté par une division et tous les nombres peuvent être aussi écrits sous forme de fraction. Une fraction comprend deux parties qui sont le numérateur et le dénominateur. Le numérateur est la partie supérieure de la fraction. Il représente le nombre de parts utilisées. Le dénominateur est la partie inférieure de la fraction. Il représente le nombre de parts égales unité. Merci Erifi pour tout l'excellent travail que vous faites.
Yandé, elle a 12 ans. Dis donc, tu veux pas venir faire des leçons là en direct à l'école à la radio, mais
Je voulais dire la même chose.
Exactement.
Merci de compléter mon cours.
Et ouais, envoie ta candidature chez nous à l'école à la radio. Et puis les propositions d'Ibrahima, anticonstitutionnellement, ça c'est le jackpot quand on joue au Scrabble. 9 syllabes. Ouais, là il est allé beaucoup plus loin que les objectifs que nous avions fixé, ça veut dire anticonstitutionnellement, à l'encontre de la Constitution, hein, finalement. Mais c'est vrai qu'on ne l'utilise pas beaucoup au quotidien, ce mot. Je vous ai demandé aussi, les voisins et les voisines, cette semaine, ce que vous aimeriez changer dans l'école de votre pays, à la lumière de vos expériences d'enseignement à distance, parce que c'est vrai que pour ceux qui ont suivi des émissions à la télévision dans leur pays, avec des cours envoyés par les enseignants via WhatsApp qui recevaient les exercices, ceux qui écoutent l'école à la radio, vous avez appris beaucoup de choses et de manière très différente par rapport à l'école classique. Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement? Et surtout, quelles propositions vous pourriez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez changer dans l'école que vous allez retrouver au mois de septembre? On n'a pas beaucoup reçu encore de vraies propositions. Allez, si vous étiez tous ministres de l'éducation dans votre pays, envoyez vos propositions. L'école ne peut pas reprendre exactement là où elle s'est arrêtée avant le Covid-19. Alors on a bien Myriam qui pense que l'émission chez nous a beaucoup servi aux enfants durant le Covid. Elle dit « Moi j'ai été très surprise de la capacité de très petits enfants à suivre les cours à la radio et à développer leur sens de l'ouïe sans avoir l'enseignant en face. » C'est vrai qu'on était très dubitatif, Sarah, hein. C'est pas évident de se concentrer quand on n'est pas dans une salle de classe.
Non, alors ben, la salle de classe, ça c'est pas très important, mais d'être pas vis-à-vis à quelqu'un qui parle, on peut aussi écouter, pas que écouter, mais regarder aussi la personne, et la personne voit le visage, elle peut interagir. Donc ça, il faut faire les cours autrement à la radio, hein. J'ai dû apprendre.
Oui, vous aussi, vous avez appris, exactement. Ismaïla Tanouakchott en Mauritanie, j'aimerais bien qu'on écrive des annales sur toutes les leçons faites avec les profs de l'école à la radio. J'ai trouvé ça très pédagogique, j'avais tellement de mauvais souvenirs sur des fractions. Grâce à Sarah, elles n'ont plus de secrets pour moi.
Génial.
Hein, c'est quand même chouette. Lassana dit, nous savons tous qu'il faut être très attentif pour apprendre avec la radio. Ça demande plus de concentration. On aura bien appris à être attentif et ça nous aura fait prendre conscience que les enseignants méritent tous un grand respect. Merci Lassana pour ce message, pour eux tous. Ali est aux Comores. Grand merci à Sarah. Sa leçon sur les fractions était géniale. C'est une partie du programme du cours moyen CM, donc aux Comores. La plupart des enseignants comoriens n'ont pas coutume de concrétiser cette leçon. Et c'est vrai qu'on a coupé des bandes de papier, des morceaux de bâton, en plein de morceaux différents pour comprendre ne serait-ce que le concept de fraction, Sarah.
C'est ça.
Sarah, allez, dans quelques instants, on démarre. Je crois que vous nous préparez un voyage très spécial dans l'histoire de l'écriture.
Sept milliards de voisins.
L'école à la radio.
Sarah Vauquier, c'est à vous qui pilotez.
Bah oui, bah je pilote. Justement, je vous invite d'entrer avec moi dans une machine à remonter le temps. On va faire un voyage dans l'histoire de l'écriture ensemble. C'est moi la pilote. Est-ce que vous êtes bien assis chez vous sur votre chaise? Alors, il faut vous accrocher. La machine va repartir dans 3 secondes. 1, 2, 3, c'est parti.
Ça y est, on y est, Sarah. On est parti, on a décollé.
Ah, oh, ça va?
Ouais, ça va,
oh là,
ça va.
Oh là, on est allé loin, là. Oh, la machine, elle atterrit à l'âge de la pierre.
L'âge de pierre?
L'âge de la pierre, ouais. Bah, en fait, on va sortir et puis on va regarder un peu où on se trouve. Voyez-vous cette caverne-là au bord du ruisseau? Allez, on va entrer dedans et puis on va regarder ce qui se passe. Il y a des hommes de caverne qui sont en train de dessiner. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils représentent, je crois, des animaux, des scènes de chasse. Ils peignent avec de la peinture naturelle sur les murs. Je vois du noir là, oui, un peu d'orange, du rouge, du brun. Ah, le noir, moi je pense, ça c'est probablement du charbon qu'ils utilisent pour dessiner. Et les autres couleurs, ça a l'air d'être des terres un peu argileuses. Mmh.
La latérite notamment, hein, la terre rouge.
Ça pourrait être, ouais, ouais, le rouge, le brun aussi, l'orange aussi, hein, des terres avec différentes teintes, différentes couleurs.
Mais alors, comment ils peignent, Sarah ?
Alors là, il faut que je m'approche un peu. Est-ce que vous le voyez ? Ah oui, je vois. Ben, ils utilisent des os, hein, mais aussi des pinceaux, en sorte de pinceau en bois. Et une sorte de crayon en terre, hein, avec ces terres argileuses colorées, et puis des crayons en charbon. Pour dessiner. Ah là, à gauche, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui gravent avec des pierres. Ils ont des pierres dans leurs mains et ils font des lignes dans le relief de la grotte.
Ah, regardez, ah oui, là. Mais c'est un énorme travail, ça, de graver dans la pierre. Travail. Vous vous rendez compte le temps que ça prend au lieu d'utiliser juste un bic sur une feuille ?
Ah ouais, ouais, non, ils doivent graver avec la pierre et ils se laissent guider par le relief pour dessiner. Il y a un là qui fait un bison. Mais exactement à l'endroit où la pierre, elle ressemble déjà à un bison.
Ah oui, ça c'est malin.
Ouais, ouais, je crois qu'ils nous ont vu. Vite, 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 on retourne dans la machine. Allez. Et la machine, elle démarre.
On remonte. Tout le monde est monté avec nous. On a oublié personne à l'âge de la pierre, hein, j'espère. Moi, je veux pas rester.
Non.
Hein.
Non. Ah ben là, on descend, on sort. Ben, on va sortir de la machine. Mais on est où là ? Ouais, ben ça c'est ailleurs. Je crois qu'on est en Mésopotamie, mais il y a 5000 ans devant, mais avant l'an 2020, il y a 5000 ans, ben la Mésopotamie, ça se trouvait là où sont situées aujourd'hui la Syrie, l'Irak, un peu entre la mer Méditerranée et puis la mer du Golfe Persique. On pourrait dire un peu entre l'Afrique et puis l'Asie aussi. Mmh. Et puis c'est là où on se trouve. Je vois aussi des humains qui sont là. Ils écrivent sur des tablettes mais en argile ou en cire d'abeille.
Oui, parce que c'est un petit peu mou, donc on peut graver, c'est ça, dedans ?
Ça, mais regardez bien, mais je crois qu'ils dessinent plutôt des symboles, ils ne font pas vraiment des lettres qu'on connaît.
Ouais, c'est bizarre, hein ?
Qui fait de sortes de traits et des petits triangles dans différentes directions. Ah, mais moi, je connais ça. J'ai déjà vu ça. Ça s'appelle l'écriture cunéiforme. C'est la première forme d'écriture qu'on connaît, notre premier alphabet. Et avec quoi ils font ça ? Avec quoi ils écrivent, ils dessinent ? Je vois, ils utilisent un roseau taillé en pointe. Avec ce roseau, ils gravent dans l'argile, dans la cire d'abeille. Oh ben ça me fait presque envie de tester ça chez moi, ouais. Si je trouve tout ça aussi.
Mais ben ça ne doit pas être rapide. Ça ne doit pas être rapide non plus, hein, de graver dans la cire d'abeille.
Non, non, je crois que ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Hein, et la cire, elle ne doit pas être trop molle non, et pas trop dure non plus. Bah, on va aller regarder ailleurs. Entrer dans la machine, on va continuer le voyage.
Ah oui, ne vous oubliez pas, surtout on monte avec vous. Hein. Et où est-ce qu'on vient d'atterrir, là, Sarah ?
Là, je vois, c'est Rome. On est à Rome, en Italie. Mais là, on atterrit dans la cour d'un monastère, au Moyen-Âge, je crois. Là, je vois des moines qui écrivent sur une sorte de papier. Ah, hein. Ils ont du papier. Ah, non, je crois que c'est du parchemin. Ça s'appelle du parchemin. Ça vient d'une peau d'un animal. Une peau qui est retravaillée, qui est très, très fine. Et il écrit ce moine sur ce parchemin.
Et qui est très solide, qui se conserve très longtemps, hein, le parchemin. Bien plus longtemps que du papier.
Vous l'enroulez aussi. Alors lui, il écrit, il porte une plume d'oiseau, la pointue, dans sa main. Et je vois, il écrit en latin. Alors, c'est les mêmes lettres qu'on utilise ici. Donc là, je peux lire les lettres de l'alphabet.
Oui. Et puis une plume comme chez vous dans votre cour, finalement, Sarah.
C'est ça. Et là, il y a un autre, mais qui fait un peu pareil comme en Mésopotamie. Hein. Il grave toujours sur une tablette en cire d'abeille, aussi avec un roseau taillé. Mais en fait, ce qui est pratique avec ces tablettes-là, c'est que s'il veut plus de ce qu'il a écrit, il peut fondre la cire et il peut se presser une nouvelle tablette et puis il peut recommencer.
Ouais, c'est pas aussi simple que de faire supprimer sur l'ordinateur quand même. Hein.
Ouais, mais ça prend du temps et c'est plus compliqué que chez vous avec l'ardoise. Hein, vous devrez juste nettoyer avec de l'eau et puis après vous pouvez réécrire dessus. Ben allez, on va retourner chez nous, chez nos tablettes électroniques et nos stylets en plastique.
Ah ouais, j'aime mieux ça. Allez, c'est bon. on rentre chez nous. Ah oui. Eh bien, on en a parcouru des siècles et des siècles avec vous, Sarah, en quelques minutes à l'école, à la radio. Ça, c'est quand même assez magique.
C'est bien. J'espère que vous n'avez pas trop le tourniquet, là, mais là, parce qu'on a fait beaucoup de sauts en peu de temps.
Mais alors, finalement, pourquoi écrire, se demandent pas mal d'enfants, avec les efforts que ça demande quand on commence à apprendre à écrire?
Ben oui, alors je comprends, parce que ça aurait été beaucoup plus simple de juste se raconter les choses. Ça vous aurait simplifié la vie à l'école, il n'y aurait plus de cours de grammaire, pas nécessaire d'apprendre un alphabet, pas nécessaire de faire des dictées, ni de lire des livres. On aurait dû juste apprendre à bien parler, à bien communiquer. Mais
ben oui.
En fait, oui.
Et ça, on sait le faire bien avant de savoir écrire. Les enfants sont capables de bien parler. Alors écrire, à quoi ça peut servir?
Ah, vous avez une petite idée, vous avez une hypothèse?
Moi, je me dis quand même qu'on peut partager des informations quand même quand on sait écrire. On peut développer peut-être sa mémoire, son intelligence. Alors, ça ne veut pas dire que ceux qui ne savent pas écrire n'ont pas développé leur mémoire, leur intelligence, mais peut-être qu'ils ont dû le faire par d'autres moyens que l'écriture.
Mais c'est ça, il y avait la culture du raconter hein, qui était très fortement répandue avant qu'on a écrit. Mais en fait, imaginez-vous que vous devriez garder dans votre mémoire tout ce que vous avez appris à l'école pendant des années. Alors ça, c'est vraiment très très difficile. Donc écrire, ça nous permet d'élargir notre mémoire. Hein. On peut mettre ça, le texte, sur une feuille ou sur une ardoise. Et si on se souvient plus, on peut aller lire. Et puis, nos ancêtres, ils trouvaient ça aussi. Surtout quand il s'agissait, par exemple, de la tenue des comptes financiers. Alors, qui a payé combien à qui? Ils gardaient ça dans la tête, tous ces chiffres, c'est compliqué.
Il vaut mieux avoir des lois,
les réglementations. Parfois, on se souvient pas très bien comment était une loi. Mais donc, on savait plus comment on l'interprétait, quelle était la base. Et c'est comme ça que les gens, ils ont commencé à écrire les lois, les comptes aussi, mais aussi l'histoire de leur peuple, hein, de pouvoir transmettre leurs connaissances aux autres et pendant des siècles. Hein. Ou bien on a vu ça en médecine aussi, parce que imaginez-vous un vieux médecin, il acquiert plein de connaissances au fil de sa vie, et s'il peut noter tout ce qu'il a appris, c'est assez astuce. Il peut noter par écrit, ça peut être très utile pour les médecins qui vont venir après lui, et pour nous aussi, pour guérir nos maladies.
Oui. Et d'ailleurs, vous l'avez entendu, Sarah, un auditeur nous disait, il faudrait écrire les annales de l'école à la radio, parce que justement, nous, on fait que de l'oral à la radio avec vous, même si vous avez noté tout ce dont vous alliez nous parler, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'écrit, et comment garder une trace finalement de toutes les leçons que vous nous avez faites?
C'est ça, mais je trouve ça une très très bonne idée de faire des annales, vraiment.
Alors, on va maintenant devenir actif avec les enfants. On va fabriquer un instrument d'écriture. Est-ce qu'on va revenir à l'âge de pierre, Sarah?
Mais on va, mais je commence vraiment dans l'historique, là où on est atterri la première fois avec votre machine à remonter le temps. Ben, à l'âge de la pierre, on aurait pu utiliser simplement un morceau de charbon hein, pour dessiner. Allez à la place de votre feu et puis vous prenez un charbon qui est bien froid et puis vous pouvez dessiner. Mmh. Et puis plus simple, par exemple, aussi pour écrire et un crayon en charbon. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Mais après l'émission, si vous avez un foyer et un peu de papier aluminium, ben vous prenez votre bâtonnet, vous pouvez l'envelopper avec du papier alu et puis vous le mettez dans la braise de votre feu pendant 3 minutes environ. Il faut bien surveiller. Après, il faut le sortir avec une pince ou un gant.
Et à quoi ça sert de l'envelopper de papier d'aluminium ce bâton de bois?
Il va cramer.
Ah, c'est ça, il va brûler trop vite.
Un petit morceau tout d'accord. Suite, et ça va être trop chaud. Il ne faut pas qu'il ait trop chaud ni trop froid. Donc peut-être qu'il faut faire ça avec plusieurs bâtonnets. Mmh. Même. Comme ça, vous avez un crayon charbonné à la fin.
Et donc après, on enlève le petit morceau de papier d'aluminium et on a ce crayon de charbon avec lequel on peut écrire sur du papier.
C'est ça, on peut sur du papier, mais aussi sur des pierres. Nous, on a déjà écrit, dessiné sur des écorces d'arbres. Et chez nous, ça s'appelle le fusain. On appelle ces crayons le fusain, mais ça vient d'un arbuste qui s'appelle le fusain, avec lequel, à l'époque, on a fait en fait ce genre de crayon charbonné.
Ouais, très utilisé par les artistes autrefois, le fusain.
Tout à fait, ouais. Et puis bon, là, deuxième étape, on va en Mésopotamie à 5000 ans. On n'utilisait pas que le roseau, mais aussi des stylets très simples pour graver. tremper dans l'argile. Alors maintenant, si vous avez un bâtonnet, hein, vous pouvez vous fabriquer un stylet pour graver dans une tablette d'argile ou de cire d'abeille. Et c'est très simple. Donc, il faut juste tailler une extrémité en pointe, ben, soit avec le couteau, soit pour les plus jeunes, si vos parents ne vous autorisent pas à utiliser le couteau, on pourrait prendre une lime à ongles.
Alors, puis après, comment on va tailler exactement ce stylet,
ce stylet. Alors, ce qui est important, ça, c'est la première règle que j'utilise pour l'utilisation des couteaux. Il faut toujours couper loin de son corps. Alors, on commence chez soi, mais on coupe vers plus loin. Donc, il faut couper dans un seul sens. Donc, vous prenez votre bâtonnet dans une main, avec l'autre main le couteau, et vous coupez la pointe en allant toujours de vous vers plus loin.
Les enfants, n'allez pas vous blesser. Hein. Demandez de l'aide à un grand frère, à une grande sœur. Vous pouvez commencer déjà à tailler ce stylet en écoutant la suite des explications de Sarah. Donc, avec ça, on va pouvoir écrire sur quoi ?
Sur quoi donc ? Après, à l'émission, vous pouvez, si vous avez de la terre argileuse, voire même de l'argile, vous pouvez vous modeler une petite tablette, hein, comme une petite feuille, avec une épaisseur de 1, voire 2 centimètres. Et puis, là-dessus, vous pouvez essayer de graver avec votre stylet.
Donc, cette terre, on la mélange avec de l'eau, un petit peu d'eau, pour faire une sorte de bouillie qui va sécher, qui va durcir. Et ensuite, on peut écrire dessus. C'est-à-dire graver. Hein. Là, quand on parle d'écriture, c'est bien de la gravure.
De la gravure, ouais, on n'écrit pas sur la tablette, mais on grave dedans.
Hein, dans la terre.
Ça va faire des petits creux. Hein. Donc, vous pouvez essayer d'écrire votre nom, une phrase simple, ou bien même juste des lettres en écriture cunéiforme. Mes filles ont essayé d'écrire le nom et leur prénom, par exemple, une fois en écriture cunéiforme que vous trouvez sur Internet.
Voilà, il faut aller chercher l'alphabet sur Internet. C'est pas simple, hein. J'ai été regarder. Beaucoup de petits triangles, de petits symboles qui, à nous, ne nous disent rien. Donc, l'écriture cunéiforme, qui est la première forme d'écriture. On arrive ensuite où, à quelle époque, Sarah ?
Mais là, on arrive chez les Romains, en Italie. Donc, ceux qui ont maintenant une plume d'oiseau, de poule, on peut en faire une plume pour écrire. Et ça, c'est vraiment très simple. Vous avez besoin de votre couteau et vous coupez obliquement la pointe de votre plume. Ça veut dire obliquement que vous coupez en diagonale. Hein. Votre plume, à la fin, elle aura une pointe en bas sur un des deux côtés.
Et le reste, donc, est évidé.
C'est ça, le reste est vide. Hein. Il y a une pointe sur un côté, et puis derrière la pointe, que ça monte un peu vers en hauteur de la plume, c'est vide. Voilà. Puis, une fois que vous avez fait ça, je crois que ça demande une coupe, hein, c'est très rapide, on va essayer de couper cette pointe en deux, ben, sur une toute petite longueur, que en 2 mm. Ça va faire votre réservoir d'encre. Hein. Cette coupe, ça vous permet de pouvoir écrire plus longtemps. Hein. On peut déjà utiliser la plume sans cette coupe de la pointe en deux, mais avec cette coupe, il vous faudra un peu moins d'encre. Il ne faut pas toujours aller chercher de l'encre. Ouais. Ben, en parlant d'encre, mais qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme encre ? Est-ce que vous vous souvenez de la leçon où on a fabriqué de la peinture naturelle ?
Eh bien oui, tout à fait. On avait fabriqué des peintures naturelles, notamment à base de terre, par exemple. Est-ce qu'on pourrait imaginer une terre argileuse ou une terre rouge comme la latérite qui serait très mouillée et le liquide rouge servirait d'encre, par exemple ?
Alors ça irait très bien, ben, la terre, ben, le charbon, ben, aussi des craies, hein, si on fait une petite sauce avec une craie ou un fruit, si vous avez une framboise dans le jardin ou quelque chose comme ça, un fruit qu'on peut utiliser pour faire de l'encre pour votre plume.
Oui. Il y a des fruits d'ailleurs qui produisent un jus qui fait des taches sur les vêtements très indélébiles, hein, donc qui marcherait
très bien
sur du papier. Alors moi, ce que j'aime avec ces plumes d'oiseaux, hein, Sarah, vous savez, ça fait toujours, quand on les frotte sur le papier, quand on essaye de tracer des lettres, ça fait un bruit très caractéristique, ça fait crac, comme ça.
Oui, tout à fait. Hein. Ouais. C'est quelque chose pour les oreilles.
Ah
aussi,
oui, c'est vraiment l'ancien temps, comme on le voit dans certains films.
Hein. Oui, tout à fait. Par contre, avec la plume, c'est déconseillé d'écrire sur des pierres parce que vous allez casser votre pointe. Vous pouvez surtout l'utiliser sur le papier. mais aussi sur des écorces d'arbres qui sont claires et très très lisses. Ben, chez nous, on a le bouleau, par exemple, qui a une écorce vraiment blanc ou blanc-gris, mmh, qui marche très bien pour écrire dessus, aussi avec une plume.
Et qui se détache facilement du tronc. On peut, oui, aussi trouver ça, je sais pas, j'ai vu des eucalyptus dans les montagnes en Inde,
ah,
qui,
oui,
servaient aussi de support d'écriture pour des techniques très très artisanales. Finalement, on est en train de s'amuser énormément, Sarah, avec vous pour écrire, pour ceux qui avaient un peu la hantise d'écrire.
Oui. Et puis, bah, j'ai un dernier instrument d'écriture qu'on peut faire. Ceux qui ont trouvé un roseau, alors comme le moine là au monastère qui a écrit sur le parchemin, hein, on va fabriquer une plume avec un roseau. Ça, c'est un peu plus compliqué. Vous commencez pareil comme avec la plume d'oiseau, vous coupez obliquement le roseau à une extrémité, donc de nouveau ça vous fait une pointe sur un côté et puis derrière c'est un peu vide.
Alors ça sera beaucoup plus solide que la plume en revanche.
C'est ça, ça demande un peu plus de force et parfois on rate aussi de faire ces coupes-là parce que le roseau il est vraiment solide.
Et là comment on va faire le réservoir d'encre pour permettre que l'encre s'accumule un petit peu, qu'on soit pas obligé de tremper le roseau tout le temps dans l'encre pour écrire?
Mais donc là aussi, c'est un peu plus compliqué. Ça, vous pouvez le faire après l'émission. Donc, idéalement, on prend une petite aiguille, une aiguille de couture qu'on chauffe à la pointe au feu. Et puis, avec cette aiguille très chaude, on fait un trou à 1 cm plus haut que la pointe de votre plume. Mmh. Ça, l'aiguille chaude, elle va brûler un petit rond dans votre roseau. Et puis après, bon, il faut bien sûr tenir l'aiguille avec des gants ou un morceau de tissu, sinon vous allez vous brûler la main.
On peut aller voir des tutos hein, sur Internet. Mais ce que je comprends, c'est que l'encre va se stocker dans ce petit trou, c'est ça?
Dans ce petit trou, et puis surtout, vous allez maintenant, quand vous faites la coupe finale, mais comme pour la plume d'oiseau, vous fendez le roseau, la pointe du roseau en deux, hein, vous n'allez pas le fendre trop loin, parce que parfois, justement, avec le roseau, c'est difficile. Donc, vous allez couper la pointe en deux, jusqu'au petit trou que l'aiguille chaude vous a fait.
Eh bien voilà, les enfants sont en train de fabriquer leurs instruments d'écriture. Et une fois que la plume d'oiseau sera taillée, que le roseau sera taillé, on va vraiment écrire. On aura fabriqué des encres.
Bien sûr, ça c'est aussi l'objectif de l'exercice. Et l'intéressant, c'est vraiment d'aller expérimenter, d'aller vous exercer, d'écrire de différentes manières avec vos différents instruments d'écriture que vous avez faits. Et aussi sur différents supports. Hein. On peut écrire un court texte sur un papier. Et puis le reproduire avec différents instruments d'écriture sur, par exemple, dans la terre. Hein, si vous utilisez des bâtons, des cailloux, on peut aussi écrire dans la terre. On peut prendre ce fusain, hein, ce crayon qu'on a charbonné.
Et on peut bien sûr s'entraîner aussi à revenir à notre alphabet pour faire de très belles lettres.
Ceux qui parfois n'ont
pas le courage de faire ça sur leur cahier, qui ne voient pas l'intérêt, là, fabriquer un très beau A, un très beau B, un très beau C, c'est très joli. Ce sont vraiment des œuvres qu'on appelle de la calligraphie.
C'est ça, la calligraphie, c'est la belle écriture ou l'art de bien former les lettres de l'alphabet, mais qui s'est pratiqué pas que en Chine ou dans les pays asiatiques, mais un peu partout dans le monde. Et comme toujours, bien sûr, on aimerait voir les photos de vos écritures et de vos instruments d'écriture.
Vous postez tout ça sur notre compte WhatsApp au 33 1 84 22 71 71. Et bien évidemment, montrez-nous bien vos instruments d'écriture. On les postera sur notre compte Instagram. Sarah, demain il va y avoir du sport et des mathématiques avec un jeu très ancien, les jeux des Highlands. Ce sont des jeux celtes, hein. Ça remonte au temps des peuples celtes et encore pratiqués en Écosse.
On va voyager dans l'histoire de nouveau pour faire du sport et pour faire des mathématiques.
Alors, je vous rassure, hein, pour ceux qui connaissent les jeux des Highlands qui sont assez dangereux, on va pas demander aux enfants de se lancer des troncs d'arbres. Non, il s'agit pas d'organiser un jeu de massacre, pas du tout, mais de s'amuser, de faire du sport et encore de s'entraîner à prendre des mesures pour mieux comprendre la différence entre les nombres. Allez, Sarah, on vous remercie beaucoup. On vous souhaite une très belle journée dans vos montagnes, tout près de la Suisse. Et on vous retrouve demain. Et quant à vous, les enfants, vous pouvez poser les plumes d'oiseaux ou les pointes de roseaux. Les histoires, on l'a dit, c'est très important d'écrire pour transmettre. avec Sarah, mais les histoires sont capables aussi de voyager, de se transmettre sans écriture. Ce sont des contes racontés à la veillée, devant le feu, et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure avec Héloïse Oria. Ça sera juste après Cold Little Heart. Michael Kiwanuka, Cold Little Heart, chez 7 milliards de voisins. L'école à la radio, on est en direct sur RFI. Et tout de suite, comme chaque jour, une histoire racontée par Héloïse Oria. Brou ne veut pas dormir, et nous non plus d'ailleurs. On veut l'écouter.
Je vais peut-être inventer une histoire.
Il était une fois...
Brou ne veut pas dormir. Une histoire de Samane Yazae et Guillemette Resplenditaille. Brou est un petit ours pas comme les autres. Il ne veut pas dormir, même pendant la nuit. Ce qu'il aime, tournicoter autour du plus vieil arbre de la forêt, tapoter l'eau du lac, se balancer aux feuilles du lierre qui sont toujours vertes et glisser sur les pierres moussues. Mais le vieil arbre, le lac, le lierre et la pierre ne sont pas contents.
« J'ai le vertige à cause de ce petit ours. Vivement que l'hiver et la neige arrivent et qu'il aille dormir !»
dit le vieil arbre très fâché. « Je pourrai alors me reposer, et il ne dérangera plus mes poissons, » ajoute le lac.
« Je préfère geler sous la neige plutôt qu'il s'accroche à ma tige !»
confirme le lierre.
« Oui, il faut qu'il dorme, car avec la neige, il adorera faire des glissades sur mon dos !»
soupire la pierre. Un jour,
« Brou, il est temps d'enfiler ton pyjama tout neuf !»
grogne Papa Ours. Il faut être prêt pour aller dormir pendant de longues nuits et de longs jours. Dès que l'hiver et la neige arriveront, le sommeil viendra te prendre, ajoute Maman Ours de sa voix douce.
Qui est l'hiver? Qui est la neige?
Demande Brou, curieux. Personne ne répond à ces questions. Maman Ours et Papa Ours sont trop occupés à entasser des oreillers en plumes et des couettes douillettes en une pile aussi haute que le vieil arbre.
« Je ne veux pas dormir !»
pleurniche Brou. Et il part raconter son chagrin à son seul ami, qui lui non plus ne dort jamais la nuit. C'est Monsieur Hibou. Il habite sur une des branches du plus vieil arbre de la forêt.
« Si je dors, le vieil arbre s'ennuiera, car je ne tournicoterai plus autour de lui. Et qui tapotera le lac pour empêcher son eau de geler? Et si je ne saute pas sur les pierres, la mousse les étouffera? Et qui vérifiera que le lierre est toujours vert, de sa première à sa dernière feuille ?»
Monsieur Hibou répond « Eux aussi vont dormir lorsque l'hiver arrivera, et ils ne se réveilleront qu'au printemps. Alors, l'hiver et la neige iront dormir à leur tour. J'ai un secret à te confier, ajoute l'oiseau aux yeux tout ronds, qui t'aidera toujours à trouver la solution à tes problèmes. Pour ne pas m'ennuyer, je lis mon livre d'astronomie qui explique le langage des étoiles. Tous les habitants de la forêt lisent des livres. Ils pourront te les prêter, si tu veux. » Brou est très surpris. Mais Monsieur Hibou ajoute « Ne répète ce secret à personne. Madame Lapin adore les livres de cuisine. Monsieur Écureuil, les livres de mathématiques. Monsieur Renard, les livres de chimie, et Madame Lacaille, les livres d'histoire. » Alors, en plus du livre d'astronomie de Monsieur Hibou, du livre de cuisine de Madame Lapin et du livre de mathématiques de Monsieur Écureuil, Monsieur Renard offre à Brou un livre de chimie et Madame Lacaille un livre d'histoire. Le lendemain matin, la famille Ours part s'installer confortablement dans sa grotte. Elle est prête à s'endormir sous les couettes douillettes, abandonnant la forêt à l'hiver et à la neige.
« Bonne nuit tout le monde !» dit Papa Ours.
« Oh, je ne veux pas dormir à côté de toi, tu ronfles !» lui répond Maman Ours.
« C'est que j'ai trop mangé. J'attendais ce moment avec tant d'impatience. Je pourrais même dormir toute ma vie !»
grogne Papa Ours en bâillant. « Ferme les yeux et endors-toi. C'est tout simple !» dit Maman Ours à Brou.
« Ne t'inquiète pas, maman, » répond Brou. « Je promets de lire mes livres sans faire de bruit pour ne pas vous déranger. Mais comment saurez-vous que vous devez vous réveiller? Est-ce que le coq chantera pour vous avertir ?»«
Non, c'est le soleil. Il brillera et nous réveillera. Cela sera très agréable, » le rassure Maman Ours avant de s'endormir. Les jours passent. Tout le monde dort, sauf Brou. Il lit ses livres, l'un après l'autre. Parfois, il entend les ronflements de Papa Ours ou les gargouillements du ventre de Maman Ours. Il rit tout seul, pas trop fort pour ne pas les réveiller. Grâce au secret de Monsieur Hibou, il apprend beaucoup de choses. Le nom des étoiles, les dates des fêtes nationales et des recettes de plats asiatiques. Il a hâte de raconter tout ce qu'il sait à Papa et Maman Ours et de préparer des petits plats avec les recettes qu'il a découvertes. Mais il lui faut attendre. Un beau matin, le soleil brille enfin sur la forêt. Les oiseaux chantent. Papa et Maman Ours se réveillent et se disent bonjour.
Nous avons bien dormi.
Je ne me suis pas réveillé une seule fois. Mais où est Brou ?
S'inquiète Papa Ours.
Il s'est endormi sur ses livres.
Comme il est mignon, répond Maman Ours. Laissons-le dormir, il est si fatigué. En bas de la colline, les pierres, le vieil arbre, le lierre et le lac attendent le retour de Brou avec impatience. Avant de s'endormir, ils avaient entendu la conversation entre Brou et Monsieur Hibou. Ils avaient du regret d'avoir été si sévères avec le petit ours.
Arrive-t-il enfin ? Demande le lierre.
Oui, je le vois. Il dort dans les bras de Papa Ours,
répond le vieil arbre.
J'espère qu'il se réveillera bientôt, sinon il ne pourra pas profiter du soleil,
s'inquiète le lierre. Nous ne l'appellerons plus Brou, le petit ours qui ne veut pas dormir, ajoute le lac.
Mais Brou, le petit ours qui lit des livres,
concluent les pierres moussues. Depuis cet hiver, même si Brou n'est pas un petit ours vraiment comme les autres, tous les habitants de la forêt sont ses amis.
À
Eh bien voilà, lire ou dormir, pas forcément besoin de choisir. À la mise en onde, Romain Dubrac. À la lecture, Héloïse Oreilla. Et quant à nous, on retrouve très très vite une autre histoire demain, mais tout de suite, une nouvelle, un nouveau rendez-vous avec le chef Anto.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Un nouveau rendez-vous de l'école à la radio, chef Anto Cocagne. Bonjour Anto.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bonjour aux enfants qui nous suivent aujourd'hui.
Alors les voisins et les voisines vous connaissent, vous passez souvent dans l'émission 7 milliards de voisins pour parler du patrimoine culinaire en Afrique, mais cette fois, grâce au Covid-19, si je puis dire, ou à cause, et à la fermeture des écoles, vous avez eu envie de transmettre votre passion aux enfants, et c'est ce que vous faites d'ailleurs fréquemment dans les écoles. Aujourd'hui, de quoi nous parlez-vous ?
Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'épopée du manioc, le manioc dans nos cuisines. Parce que le manioc est l'aliment le plus consommé sur le continent africain avec le riz et le maïs.
On vous écoute.
Saviez-vous, les enfants, que l'Afrique noire, à elle seule, fournit plus de la moitié de la production mondiale de manioc en plus de 150 millions de tonnes produites chaque année? Et le Nigeria est le plus gros producteur d'Afrique avec plus de 60 millions de tonnes à lui tout seul.
60 millions de tonnes à lui seul pour le Nigeria. L'Afrique aime le manioc, ça c'est sûr. Alors dites-nous un petit peu d'où vient cette plante, Anto.
L'histoire raconte que le manioc provient des Amériques et qu'il a commencé à être cultivé chez nous pendant la période de l'esclavage. Ainsi, sa culture et sa consommation se sont répandues dans quasi toute l'Afrique subsaharienne. Et quand on parle de manioc, on parle bien sûr de la plante. Et dans cette plante, on consomme les feuilles, mais aussi les racines qu'on appelle tubercules. Il existe deux grandes variétés de manioc. Le manioc amer qui donne de très grosses tubercules, donc de grosses racines qui peuvent dépasser les 5 kilos, et le manioc doux avec de toutes petites racines, donc de petits tubercules, qui n'excèdent pas 1 kilo.
Donc, à retenir, les feuilles se mangent et les tubercules, les racines se mangent. Le manioc se cultive surtout sous les climats tropicaux, ça c'est sûr. On ne pourrait pas en faire pousser, par exemple, en Europe ?
Exactement. Le manioc se cultive surtout sur les climats tropicaux et on le plante au début de la saison des pluies et la récolte s'effectue vers la fin de la saison sèche. Pour s'épanouir, le manioc a besoin d'une bonne exposition au soleil, d'un arrosage fréquent et d'un sol riche en éléments minéraux. Il faut patienter à peu près 7 à 12 mois pour pouvoir récolter son manioc lorsqu'il est vraiment à maturité.
Alors quand on le plante, ça ressemble à quoi le manioc ? Je me suis toujours demandé.
Alors, pour le planter, on fait ce qu'on appelle des boutures. Les boutures sont composées des tiges de bois de manioc d'environ 15 cm que l'on plante de façon oblique avant de les recouvrir de terre. Il faut prévoir environ 50 cm d'espace entre chaque tige pour laisser suffisamment d'espace au développement des tubercules.
Mmh. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui trouvent le manioc en feuilles ou en tubercules dans leur assiette et qui ne savent plus vraiment à quoi ça ressemble dans la terre.
Oui, dans ce cas, moi, je les invite à faire comme moi. Je sais que moi, tous les samedis, j'allais avec ma grand-mère à la plantation et c'est là que j'ai pu voir comment cultiver le manioc, comment on pouvait déraciner et surtout comment choisissait aussi les feuilles parce que quand on mange les feuilles de manioc, on ne cueille pas toutes les feuilles parce que certaines feuilles sont beaucoup plus faciles à piler. Donc, ce sont les jeunes feuilles parce qu'elles sont beaucoup plus tendres.
Alors, c'est un aliment, vous l'avez dit, qui rassemble vraiment les Africains où qu'ils se trouvent parce que c'est très consommé en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique centrale. Une partie aussi de l'Afrique australe. Est-ce qu'on peut faire une petite ébauche de carte de géographie culinaire du manioc là, avec vous, Anto ?
Exactement. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur les feuilles. Donc, vous connaissez les enfants sans doute ce plat qu'on appelle les feuilles de manioc. Et bien, quand on va au Cameroun, on appelle ça poem. Poem, c'est les feuilles de manioc qui sont pilées, auxquelles on va rajouter de la pulpe de noix de palme et des aubergines amères. Lorsqu'on va dans les deux Congos, on appelle ce plat sakasaka.
Ah oui, le sakasaka.
Suivant les régions, et il est composé de feuilles de manioc pilées, de légumes, de pâtes d'arachide et souvent même de sucre. Si Et on va au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, on appelle les feuilles de manioc étaudier. Étaudier, c'est un plat de Casamance qui s'appelle aussi sauce feuille et qui est préparé avec des feuilles de manioc, de la poudre d'arachide, du poisson et des légumes. Et on va au Mozambique, on va dire matapa. Matapa, c'est un plat qui se cuisine avec des grosses crevettes locales, des feuilles de manioc pilées, du lait de coco, et servi avec du chima, une bouillie à base de farine de maïs.
Et alors,
et on va à Madagascar.
Oui, à Madagascar.
C'est le raftout. Le raftout, qui est simplement des feuilles de manioc pilées, cuites avec de la viande de porc gras.
Vous le dites bien, hein, parce que moi j'ai tendance à dire ravitoto, c'est pas comme ça que ça se prononce. Redites-le-nous,
Anto. Non, c'est raftout.
Raftout. Donc toujours les feuilles pilées, ça c'est la constante. Hein.
Exactement, cuite. La base vraiment les feuilles pilées, et après la technique de cuisson est souvent la même, c'est-à-dire qu'on fait bouillir longtemps les feuilles et les recettes après se diversifient en fonction des régions. Et puis il y a aussi le secret de la cuisinière, parce que lorsque vous allez à Mayotte, les feuilles de manioc c'est cuisiné avec du lait de coco, du poisson frais, mais on en consomme aussi au Malawi, au Rwanda, au Burundi, en Tanzanie. Et chaque pays a son nom. Et ce qui est extraordinaire, c'est vraiment de retrouver un même produit utilisé pour faire un plat avec beaucoup de similitudes dans la préparation des feuilles et cuisiné de façon différente.
On pourrait vraiment écrire un livre de cuisine que sur le manioc, finalement.
Ah oui, on pourrait. Et ce qui est vraiment génial, c'est de montrer à quel point nos cuisines sont tellement riches et variées et qu'elles nous unissent beaucoup plus qu'elles ne nous divisent.
Bon, alors, chef Anto, vous savez aussi pourquoi vous êtes là. Pour ceux qui vous connaissent quand même, ils se disent « Ouais, mais on aimerait bien une petite recette signée chef Anto ». Les plats traditionnels, tout le monde les connaît, tout le monde a les recettes, tout le monde a vu faire. Les savoirs se transmettent, hein, pas besoin d'ailleurs de recettes, de mesures. Mais vous, vous aimez bien réinventer aussi la cuisine avec ces mêmes produits, Anto.
Exactement. Alors, comme recette facile, je vous propose de faire un crumble de manioc. Alors, pour ça, on va utiliser de la farine de manioc qui est faite à base de tubercules qui ont été complètement séchées, déshydratées et réduites en poudre. Donc, on a une farine et avec ça, on va faire un crumble qui est un biscuit. Alors, pour faire le crumble, il faut faire ce qu'on appelle le temps pour temps. Temps pour temps, c'est quatre ingrédients qui ont tous le même poids. Donc, 100 grammes de farine de manioc, 100 grammes de beurre pommade, 100 g de sucre en poudre, 100 g de poudre de noix. Alors, comme noix, suivant ce que vous avez, ça peut être de la poudre d'amande, de la poudre de noix de cajou, de la poudre d'arachide ou même de la poudre de graines de courge. Vous mélangez le tout, vous mettez au four, 180 degrés pendant 15 minutes, et vous avez un crumble que vous pouvez servir avec des fruits frais découpés, bananes, mangue, papaye, ananas, selon votre convenance, et le tour est joué.
Super, farine de manioc, sucre, beurre, poudre d'amande, crumble de manioc, donc signé chef Anto. Alors là, évidemment, on utilise les tubercules. On se retrouvera d'ailleurs pour parler un peu plus précisément des tubercules avec les plats traditionnels, puisque on a surtout parlé des feuilles. Merci beaucoup. Ça sera un autre rendez-vous avec vous, chef Anto, la semaine prochaine.
Merci à vous.
À très bientôt, Anto. J'en profite aussi pour vous signaler que dans cette émission, l'école à la radio, vous entendez régulièrement les chroniques du coach Didier Akwete qui vous parle des entreprises chaque semaine dans l'émission, qui anime une conférence aujourd'hui sur le web à ne pas manquer, un webinar comme on dit maintenant, hein, au lieu de dire un séminar. Confinement oblige. Aujourd'hui, 14h30, temps universel, donc ça fait 12h30, midi et demi à Abidjan, à Dakar. Quels enjeux ressources humaines post-Covid pour les entreprises en Afrique? Comment réinventer le management? Quelles sont les nouvelles opportunités d'emploi? Vous pouvez vous inscrire et voir la liste des intervenants en cliquant sur le lien qui se trouve sur notre page 7 milliards, sur le site RFI.fr et bien sûr sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram. Et moi je vous dis à demain pour l'école à la radio. Salut les voisins!